À l'écoute des deux lectures, vous avez peut-être pensé, mais qu'y a-t-il de commun entre l'histoire de la fête des rameaux et celle du figuier ? J'ai choisi ce matin de les lire toutes les deux ensemble, peut-être pour leur saveur botanique ou pour l'arrivée du printemps. Commençons avec l'évangile de Marc. Jésus a maintenant bien arpenté la Galilée, la région. Il est allé un peu partout à la rencontre de personnes très différentes. Il a annoncé la bonne nouvelle de Dieu, celle qui retourne aimée à l'envers, et qui n'a d'ailleurs toujours pas été très bien comprise. Et il va maintenant à Jérusalem, porter son message au cœur de la cité du pouvoir. Et ce sera sa destination finale. « Allez détacher un petit âne », demande-t-il à ses amis. Dans l'évangile de Matthieu, il est même précisé « Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur ». Savez-vous quel prophète avait déjà annoncé que Jésus serait sur un petit âne ? Vous le savez ? Quel prophète ? Non ? Vous avez une idée ? Non, c'est ce qu'on appelle un petit prophète. C'est pas qu'il était moins important, mais voilà, on s'est classé par grand prophète et ça commence par un Z. Zacharie. Alors effectivement, dans le livre de Zacharie, on peut lire « Dans ses cris de joie, Jérusalem, ton roi vient vers toi et il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Pour les disciples, tout se passe comme Jésus le leur avait annoncé. Parti d'une demande un peu étrange, celle de trouver un ânon, le détacher, se justifier et le ramener, le plan se déroule sans encombre. Pouvons-nous entendre ici, pour nos vies, la voix de ce Christ qui nous guide ? Ce sont parfois des chemins qui nous semblent tortueux, mais qui peuvent peut-être, plus tard, se révéler bons. Jésus s'assoit, nous dit le texte, sur des vêtements posés sur l'ânon et avance. Les personnes autour jettent... Qu'est-ce que les gens jettent quand Jésus s'approche ? Des rameaux. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui a été dit dans le texte. Des branchages, oui. Branchages verts coupés dans les champs. Et puis, ils jettent autre chose. Cyril ? Non ? Oui ? Des vêtements. Donc, ils jettent des rameaux, mais aussi des vêtements. Dans la culture biblique, étendre ses vêtements par terre, c'est le signe de reconnaissance d'un roi, du pouvoir donné à la personne, de grand respect. Vous y penserez la prochaine fois qu'il faudra ranger votre chambre. Ainsi, dans le deuxième livre des rois, pour la consécration du nouveau roi d'Israël, Jéhu, nous pouvons lire « Les officiers enlèvent leurs vêtements » et les mettent sous ses pieds. Les musiciens jouent alors de la trompette et tout le monde crie « Vive le roi Jéhu !» Alors effectivement, ces rameaux maintenant. Ces rameaux, vous m'avez dit que c'était des branchages, des petites branches, des feuillages, tout ce que l'on peut ramasser dans les champs. Et les personnes qui accueillent Jésus maintenant, que disent-ils ? On nous dit même qu'ils crient. Est-ce que vous vous rappelez ? Qu'est-ce qu'ils disent dans le texte ? Gloire à Dieu. Encore. Le roi des cieux. Dans d'autres textes, voilà, ça n'a pas été lu, j'ai entendu. Hosanna. Hein ? Hosanna. Alors, Hosanna, c'est de l'araméen. Vous savez, l'araméen, c'était le langage que Jésus parlait, que les gens parlaient à cette époque. Ce mot vient de l'hébreu. Hoshiyana. Qui utilisait dans les psaumes comme une prière pour demander à Dieu de sauver son peuple. Et les gens disaient cela au moment du pèlerinage vers le temple de Jérusalem. Jésus ici fait le dernier pèlerinage, une fois pour toutes, pour sauver toutes celles et ceux qui le suivent. Ce cri de prière qui est une demande dans les psaumes devient ici une acclamation et un merci. L'amour de Dieu n'est plus à quémander. Il est là, il est devant nous, il est à nos pieds. Ce sont nos propres vêtements, nos personnes, nos corps et nos cœurs qui lui font une haie d'honneur et se donne à lui. En Jésus, le Sauveur, le Messie, le Roi, être aimé de Dieu, être accueilli par lui n'est plus une possibilité sous condition, mais devient, au moment des rameaux, une semaine avant Pâques déjà, l'annonce d'une promesse, d'un don gratuit et éternel pour celui qui choisit la confiance. Allons voir Luc maintenant, le deuxième texte qui a été lu. Alors c'est une parabole de Jésus, c'était laquelle ? Les jeunes ? Le figuier, merci. Marine a lu le texte, donc forcément. La parabole du figuier. Alors, habituellement, nos Bibles donnent un titre à cette histoire. Comment il s'appelle le titre de cette histoire ? Le figuier, mais il y a autre chose après. Voilà, sec, qu'est-ce qu'on dit encore ? Stérile, hein, il y a tout un tas d'adjectifs. Oubliez tout de suite le titre. Oubliez-le. Imaginez, ce pauvre figuier, avant même qu'on raconte son histoire, est déjà condamné, déjà catalogué. Toi, t'es sec, toi, t'es stérile, on te met de côté. On ne sait même pas de quoi il s'agit, on le catalogue déjà. Rappelez-vous, je vous dis souvent, les titres dans les histoires bibliques ont été rajoutés bien après. Ils ne sont pas à l'origine. Et souvent, ils induisent une interprétation qui n'est la plupart du temps pas la bonne. Alors donc, oublions les titres et laissons plutôt souffler l'esprit pour nous guider dans le texte. Donc ce figuier, nous dit-on, est planté dans une... Pas tout à fait. Dans une... C'est le décalage, le changement d'heure, là, ils sont... Alors, dans quoi on a planté le figuier ? Dans une vigne. Il est planté au milieu d'une vigne. Et j'ai appris cela, parce que je me suis un petit peu renseignée, je ne suis pas très douée en botanique. C'est en fait une habitude, car le figuier jeune ne peut donner de fruits que s'il est planté sur un terrain déjà cultivé. C'est intéressant de voir qu'avec nos idées de permaculture actuelles, nous n'avons rien inventé, mais nous avons repris des idées ancestrales et naturelles pour préserver la nature dans sa diversité, où les cultures s'entretiennent l'une et l'autre. Vous connaissez la permaculture ? Revenons à nos figues. Car justement, il n'y en a pas de figues. Le propriétaire discute donc avec l'ouvrier, c'est-à-dire le vigneron, celui qui s'occupe de la vigne, car il veut, qu'est-ce qu'il veut faire au figuier, le propriétaire ? Le couper. Nous passons ici de l'avoir prometteur à la promesse déçue. À quoi bon en effet posséder si l'objet détenu trompe l'espoir que l'on a mis en lui et occupe inutilement une place précieuse ? Ne nous arrive-t-il pas souvent de jeter ce qui ne nous sert plus à rien ? Et nous pouvons aller plus loin. Est-ce que tout ce que nous possédons doit forcément avoir une utilité ? Est-ce que nous avons le droit de posséder pour rien ? Nous savons dans notre histoire que cela en fait fait 6 ans que le propriétaire de la vigne attend des figues. Le texte nous parle de 3 ans, mais parce qu'en fait pour un figuier, il y a déjà 3 ans habituels pour que les fruits puissent commencer. Et en plus de ces 3 ans, il a encore attendu 3 ans. En plus, l'arbre est doublement coupable. Non seulement il ne produit pas les fruits attendus, mais en plus, il appauvrit le sol par ses racines, connues, les racines du figuier, pour être très gourmandes. Il devient donc non seulement inutile, mais encore nuisible. L'attitude du propriétaire est compréhensible. Son intention de le couper est raisonnable. Nous avons un état de fait. Un arbre ne donne pas de fruits et appauvrit la terre. Il faut donc le couper, action, réaction. Et surprise, dans notre parabole, que fait le vigneron, l'ouvrier ? L'avocat. Alors pas le... Il va plaider en faveur de l'arbre. Le défendre. Alors, quel est le verbe qu'on utilise en français pour dire cela ? Quelqu'un qui parle pour, qui défend. C'est d'ailleurs un verbe qui devient transformer en nom commun le nom d'une de nos prières pendant le culte, juste avant le Notre Père. Intercéder, la prière d'intercession. Nous assistons dans ce texte à l'intercession du vigneron pour le figuier. L'histoire ne s'achève donc pas par la déception, mais par un toujours possible. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Cette parabole parle de nos vies en Christ. À ses côtés, nous sommes invités à ne jamais désespérer, mais à essayer toujours d'aller plus loin. De plus, ici, l'intercesseur, donc le vigneron, celui qui demande, est hiérarchiquement inférieur au propriétaire. Vous êtes d'accord, à qui la terre appartient? Lui, il n'est qu'un ouvrier. Et pourtant, c'est à celui-là, l'inférieur, le petit, que l'histoire donne la victoire finale. Et dans notre histoire, il prend la main, cet ouvrier, en plaidant la cause du figuier, et il obtient l'accord du propriétaire. Dans nos vies, le Christ nous appelle au renversement, au retournement, au toujours possible, à ne jamais nous laisser écraser par un échec. L'Évangile nous invite à espérer contre toute espérance. Comme le dit l'apôtre Paul en parlant d'Abraham, vous savez Abraham, le père des nations, dont l'épouse Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant et qui était déjà très âgée. Les petits du jardin biblique sont en train d'écouter cette histoire. Mais Dieu a dit à Abraham, « Abraham, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. » Amusons-nous encore un peu avec ce texte. Imaginons que le figuier représente l'homme, la femme, nous, l'enfant. Le vigneron, l'ouvrier, c'est alors le Christ à nos côtés. Il veut prendre soin de nous. Il veut nous faire confiance pour que nous donnions de beaux fruits. Dans la foi, il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, comme le figuier peut croire au vigneron, mais de savoir que Dieu croit en nous. Que le vigneron croit que nous sommes précieux et capables. On change de personnage. Imaginons que maintenant nous sommes le vigneron, celui qui travaille et défend le figuier. Ce texte nous dit alors que nous avons une grande responsabilité, une responsabilité d'action sur notre terre, pour préserver ce qui nous est donné, pour défendre la vie des plus fragiles, des autres êtres humains, mais aussi de toute la création. Nous sommes appelés à être sur le terrain, les mains dans la terre, vigilants. Nous sommes appelés aussi à être dans l'intercession, dans la prière, pour la dignité de chaque être vivant. Dans notre texte, en effet, le vigneron engage sa personne. Il creuse pour faire un trou autour de l'arbre, comme cela se fait aujourd'hui pour les oliviers, pour retenir l'humidité si rare et nécessaire à la croissance des fruits attendus. Le vigneron s'engage à tout faire pour sauver le figuier. Et vous l'avez entendu, notre parabole se termine par une phrase tranchante. S'il ne donne pas de fruits l'année prochaine, tu le couperas. Et là, nous touchons à nos limites humaines. Oui, nous pouvons et nous devons tout faire pour prendre soin de la vie. Mais parfois, nous n'y parvenons pas. L'espérance, comme la foi, comporte toujours une part de risque. Est-ce que le figuier va donner des fruits, oui ou non? Nous l'espérons, mais le texte ne nous le dit pas. Il nous laisse la page blanche du lendemain, avec la responsabilité de l'écrire, avec des données que nous ne pourrons pas toujours maîtriser. Dieu ne conduit pas notre vie à notre place. Mais si nous lui demandons son aide, il sera à nos côtés. Dans ma vie, je vais donc tout faire pour que tout fonctionne au mieux. Mais est-ce que je vais y arriver? Le résultat ne m'appartient pas. C'est aussi un enseignement du Christ. Nous sommes des semeurs. Nous donnons autour de nous ce que nous recevons en abondance, la paix, la confiance, l'espérance et l'amour. Mais savoir ce que nous produirons, Combien de fruits nous pourrons donner? Dieu seul en est la source. C'est ainsi avec vous, les jeunes. Nous, vos catéchètes, nous semons. Nous partageons la bonne nouvelle de ce Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, qui habite nos vies au quotidien. Mais ce que l'Esprit de Dieu façonne dans vos cœurs, comment Dieu conduit vos chemins et de quelle manière il va vous appeler à le servir, nous ne le savons pas. Notre confiance seule nous tient à vos côtés dans la joie et dans la reconnaissance de ce Dieu qui nous rassemble et qui nous aime. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.